En attendant de retrouver vos habitudes à la rentrée, on vous propose de découvrir cette nouvelle émission dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Avoir raison avec Marie Curie, Alexandre Morales.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette série Avoir raison avec, consacrée cette semaine à la physicienne Marie Curie. Vous écoutez l'épisode 1, un rouage de la modernité. Parmi les femmes de science qui ont marqué l'histoire, Marie Curie est sans doute la plus illustre et peut-être même la seule qui vous vienne spontanément à l'esprit. Et ce n'est pas un hasard, elle est la première femme récompensée par le prix Nobel, une distinction qu'elle obtiendra deux fois pour le travail sur la radioactivité mené avec son époux Pierre. Et voilà, quelques mots et déjà se dessinent les contours d'une figure d'autorité presque mythique dont l'exigence, le désintéressement et l'engagement continuent d'inspirer l'imaginaire collectif. Alors, avoir raison avec Marie Curie, ce n'est pas seulement célébrer ses découvertes et saluer son abnégation, c'est aussi faire l'éloge de la science en tant qu'elle nous émancipe, parce qu'elle est action concrète et collective. Car bien qu'elle ne se soit jamais engagée en politique, Marie Curie incarne tout de même à sa manière une certaine idée de la responsabilité et de l'utilité sociale de la recherche scientifique. Tout au long de cette série, nous irons de la paillasse du laboratoire au champ de bataille de la Première Guerre mondiale pour retracer le fil d'une existence vouée à la connaissance et au progrès. Mais avant tout cela, il faut revenir au début, à Maria Sklodowska, une élève brillante née en Pologne, qui quitte son pays à la fin du 19e siècle pour rejoindre les universités d'un Paris en pleine effervescence scientifique et culturelle, une ville en mutation, un monde qui bascule vers la modernité et dans lequel Marie prendra toute sa place. Et pour redonner corps à ce mythe, nous avons tendu le micro à celle qui sans doute en parle le mieux, sa petite fille, Hélène Langevin-Joliot. Voici ce dont elle se souvient.
J'ai très peu de souvenirs, puisque j'avais 7 ans quand elle est disparue. Mais je dirais que d'elle, je me souviens d'elle comme d'une grand-mère. Bon, et pas du tout comme quelqu'un qu'il fallait traiter de façon très particulière. Donc voilà, c'est ça le souvenir, une grand-mère. Et une grand-mère que j'allais voir Ken Bétume, là où elle habitait quand j'étais petite, eh bien, bon, je me précipitais pour la voir, mais je me précipitais plutôt à la cuisine pour récupérer quelque chose qu'on me donnerait pour me faire plaisir. Donc vous voyez, bon, dans les promenades avec elle... Dans un film, par exemple, mes parents prenaient des films. Eh bien, c'est très typique. La personne fondamentale dans ces promenades, je le vois a posteriori, c'est pas Marie, c'est moi, parce que je suis l'enfant. Et les regards, le film, quand ça se sépare, quand je ne suis plus tenu par la main par Marie... Eh bien, on suit la petite fille, on ne suit pas la grand-mère. C'est ça, dans une famille normale, c'est comme ça que ça se passait. Je pense que c'était une femme qui était capable de penser un peu plus loin que le lendemain matin, ça c'est sûr. Et qui, d'autre part, a vécu dans une époque où il y avait beaucoup de choses qui changeaient quand même.
Renaud Huyn, vous êtes médiateur culturel, directeur du musée Curie. Bonjour, bienvenue et merci d'ouvrir cette semaine consacrée à Marie Curie.
Bonjour.
Alors, Marie Curie, une femme qui sait voir plus loin et qui vit dans une période de grand changement. Renaud Huyn, comment vous décririez Marie Curie?
Alors, lorsque Hélène Langevin évoque une famille normale, c'est un peu difficile, effectivement, d'imaginer une famille normale quand on voit plusieurs générations de scientifiques qui ont brillé par leurs recherches. Mais en effet, moi, c'est comme ça que j'ai envie de la voir, comme quelqu'un de normal, pour casser un petit peu cette image parfois austère qu'elle renvoie, alors qu'en réalité, c'était quelqu'un qui était très attaché à ses enfants, à la vie et aux choses auxquelles on est tous attachés.
Alors si on veut saisir qui fut Marie Curie, sa passion des sciences, son patriotisme, il faut remonter à la fin du 19e siècle dans une Pologne dominée par trois puissances étrangères, l'Empire autrichien, l'Empire prussien et puis la Russie. Maria Sklodowska, puisque c'est son nom, naît le 7 novembre 1867 à Varsovie dans une famille qui compte déjà quatre enfants. Et ses parents, Vladislav Sklodowski, est professeur de mathématiques et de physique, et sa mère, Bronislava Sklodowska, est directrice d'une très bonne école pour jeunes filles, Renault-Huyne. Parlez-nous un petit peu de ce cadre familial.
Alors c'est un cadre familial chaleureux, surtout soucieux d'une éducation, d'une émancipation pour les garçons comme pour les filles. Et il se trouve qu'il y a quatre filles parmi les cinq enfants, dont la petite dernière, Maria, et que tous ces enfants vont faire de brillantes études. Mais malheureusement, l'emprise russe sur Varsovie ne permettait pas aux jeunes femmes d'accéder aux études supérieures.
Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que Maria perd une de ses sœurs et sa mère, rapidement, quand elle est jeune, elle a une dizaine d'années.
Alors Maria n'a que 6 ans quand sa mère contracte la tuberculose, donc elle la voit aller assez régulièrement au sanatorium. Sa sœur également va contracter le typhus et elle n'a que 10 ans et demi lorsqu'elle perd successivement sa grande sœur, puis sa mère. Et c'est évidemment un désastre pour une jeune fille.
Oui, c'est un traumatisme qui lui fait remettre en question sa foi catholique.
Oui, on a le sentiment qu'elle renonce d'une certaine manière à sa foi catholique, le catholicisme dans lequel elle avait été élevée.
C'est aussi une excellente élève, Maria, et vous l'avez évoqué un petit peu, la difficulté d'étudier en Pologne. Donc, elle fait le choix d'économiser pour se rendre à Paris. Il y a le fameux pacte des sœurs Sklodowska.
Oui, sa sœur aînée, Bronia, rêve de devenir médecin, mais là aussi, il faut pouvoir aller s'expatrier, aller étudier en France, puisque la faculté de médecine à Paris ouvre ses portes aux femmes depuis 1868. Et donc, c'était le rêve de la sœur aînée de Marie d'aller étudier la médecine à Paris. Elles vont conclure un pacte parce que la famille n'était pas suffisamment riche pour pouvoir financer ses études à l'étranger. Et pendant que la sœur aînée ira étudier à Paris, la petite Maria se propose d'aller travailler dans des familles polonaises pour enseigner aux enfants, s'occuper des enfants et envoyer un petit peu d'argent à sa sœur pour qu'elle puisse poursuivre ses études de médecine. Et ce n'est qu'à l'issue de ses études de médecine que Marie rejoint sa sœur à Paris.
Je fais un petit aparté parce que vous avez évoqué la situation financière de la famille Sklodowski. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est une famille qui est issue de la petite noblesse qui a perdu ses moyens et que c'est vraiment ce qu'ils ont, c'est une richesse culturelle plutôt.
Une grande richesse culturelle puisque les parents avaient insisté pour que tous les enfants apprennent évidemment toutes les matières qui étaient enseignées à l'école, mais aussi les langues étrangères, l'allemand, le français. Et c'était en effet, l'émancipation était importante pour permettre la liberté. La famille Sklodowski a dû subir en effet la pression de la Russie à ce moment-là sur Varsovie.
En 1891, Maria a 24 ans, elle rejoint sa sœur Bronia à Paris, et c'est Bronia qui l'héberge, et elle s'inscrit à la Sorbonne. Elle se plonge véritablement dans ses études, et elle parle déjà un petit peu français, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais elle doit rattraper ses lacunes en physique, et elle obtient quand même deux licences à l'issue de ses études.
Elle obtient successivement une licence de sciences physiques en 1893, puis une licence de mathématiques l'année suivante, en 1894. Et c'est ce qui va la conduire finalement à rencontrer Pierre Curie.
Oui, justement, il faut qu'on s'arrête peut-être sur Pierre Curie, parce que c'est le grand oublié de l'histoire de Marie Curie, même si on dit souvent son nom, mais on ne le connaît pas très bien. C'est une figure centrale dans sa vie. Qui était-il et de quel milieu est-il issu ?
Le père de Pierre Curie était médecin, communard, protestant. Il avait un frère aîné, et ensemble, ils vont très vite s'intéresser aux phénomènes scientifiques, et notamment découvrir un phénomène nouveau. En 1880, ils découvrent la piézoélectricité en fréquentant assidûment le Muséum d'Histoire Naturelle. Et Pierre Curie était un jeune un peu rêveur, selon son père, qui ne souhaitait pas que son jeune fils suive les cours à l'école publique, si bien que Pierre Curie a suivi des cours particuliers, ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir son baccalauréat à 16 ans, comme tous les jeunes garçons de son époque, et ensuite de se consacrer à une carrière scientifique.
Oui, et puis quand il se rencontre avec Marie, Pierre est plus âgé qu'elle, il a 8 ans de plus qu'elle, et puis il est professeur aussi à l'école municipale de physique et de chimie industrielle, ce qui est l'EMPCI, il me semble.
C'était l'école municipale de physique et chimie industrielle, le MPCI, où Pierre Curie va faire 20 ans de sa carrière scientifique, qui est aujourd'hui le SPCI, École supérieure de physique et chimie industrielle.
Tout à fait. Et il se marie le 26 juillet 1895. Et là, c'est la grande époque du couple qui s'ouvre. C'est un moment d'émulation pour les deux, un moment d'émulation scientifique, parce qu'ils travaillent ensemble dans leur laboratoire rue Laumont. Et c'est là qu'ils vont travailler sur la radioactivité, parvenir à purifier des sels de radium. C'est ce qui leur vaut aussi le prix Nobel, tout ce travail sur la radioactivité. Renaud Huyne, quand on pense aux Curie, on les voit toujours au laboratoire en train de manipuler. C'est un peu l'image qu'on en a. Pourtant, c'est quand même des personnes qui vivent avec leur époque. Et justement, on est en plein dans la belle époque. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter aussi ce moment d'effervescence et comment, eux, les Curie, s'inscrivent dans ce monde-là? Quelle est leur sociabilité?
Alors, au tournant des deux siècles, c'est vrai qu'on vit une période de révolution à la fois industrielle, scientifique, culturelle. On voit les automobiles remplacer progressivement les véhicules hippomobiles. Il se passe beaucoup de choses dans la société. Il y a aussi une forte proposition culturelle à la fois dans la presse, dans les revues, dans les théâtres, la peinture. Et les Curie participent peu, finalement, à ces événements. Ils vont quand même au théâtre de temps en temps, mais ils ne participent que modestement, finalement, à cette grande révolution parce qu'ils préfèrent passer du temps dans leur laboratoire et que, en effet, leurs découvertes vont contribuer à cette révolution scientifique, à ces révolutions scientifiques, puisqu'il faut rappeler qu'ils se marient l'année de la découverte des rayons X, l'année du cinématographe, et que leurs découvertes vont accompagner tout un tas d'autres découvertes dans le milieu de la science et notamment de la physique.
Néanmoins, avec le prix Nobel, ils acquièrent une petite notoriété quand même, malgré eux presque.
Au grand désespoir de Pierre Curie, qui souffre finalement de devoir accueillir des journalistes, répondre à leurs questions, et ça on le voit dans ses correspondances, c'est une période difficile pour lui, qui préfère, plus que Marie d'ailleurs, rester à l'ombre dans son laboratoire, faire ses recherches et ne pas être exposé à cette vie publique.
Et ils deviennent donc d'une certaine manière des personnalités publiques. Le radium se diffuse dans la société, dans la culture populaire. Et il y a cet épisode que j'aime bien avec Loy Fuller, la danseuse américaine, qui vient les voir pour essayer d'introduire le radium dans ses danses et de faire des danses lumineuses, parce qu'elle était spécialisée dans les danses lumineuses.
Oui, Loy Fuller faisait partie des femmes qui utilisaient les nouvelles technologies, l'électricité, des couleurs pour rendre ses vêtements chatoyants. Et elle avait en effet contacté Pierre et Marie Curie en apprenant que leur découverte était phosphorescente pour savoir si on pouvait mettre du radium dans ses robes pour avoir cet effet visuel. C'était techniquement impossible de produire suffisamment de radium pour avoir cet effet, mais Marie Curie, notamment, et Louis Fuller sont restés amis et ont continué à correspondre pendant de nombreuses années, puisque Louis Fuller, au-delà de son travail artistique, faisait aussi un certain nombre d'expériences scientifiques. Et elle a fait la danse ultraviolette, elle a dansé le radium, elle a fait un certain nombre de danses. Et pour remercier Pierre et Marie Curie de l'avoir conseillé, elle leur a offert une danse chez Rodin, à Meudon. Et c'est un événement un petit peu artistique. C'est vrai que c'est une petite parenthèse dans la vie un peu austère de Pierre et Marie Curie.
Mais ce qui est notable dans cette affaire, c'est qu'il y a une forme de perméabilité en fait, entre l'art et la science. La science infuse en fait, un petit peu partout. C'est le moment de la fée électricité, par exemple.
C'est la fée électricité. Et souvent, on pense assez schématiquement que la science n'est régie que par la rigueur et aucune forme de fantaisie, et qu'à l'inverse, l'art n'est que fantaisie sans aucune rigueur. C'est souvent l'inverse qui se produit. Un scientifique doit aller au-delà des frontières et essayer d'explorer des domaines inexplorés. Et un artiste doit se soumettre à une rigueur extrême avant de pouvoir accomplir son travail. Et en effet, il y a une grande perméabilité entre l'art et la science, notamment à cette période où les découvertes scientifiques inspirent les artistes. Je pense notamment à des courants de peinture comme le futurisme ou même le rayonnisme qui essayent de représenter les rayons, la radioactivité. Donc, en effet, ces sphères n'étaient pas aussi séparées qu'on pourrait le croire.
France Culture, avoir raison avec Marie Curie, Alexandre Morales.
Assez souffrant et fatigué, il vint passer les journées de Pâques dans la vallée de Chevreuse avec moi et avec nos enfants. Ce furent deux douces journées où le soleil se montra clément et où la fatigue de Pierre Curie lui fut moins lourde, dans un repos bienfaisant auprès des êtres qui lui étaient chers. Il s'amusait dans la prairie avec ses petites filles et s'entretenait avec moi de leur présent et de leur avenir. Il retourna à Paris pour une réunion et un dîner de la Société de physique. Assis à côté d'Henri Poincaré, il eut avec lui un long entretien sur les méthodes d'enseignement. Tandis que nous retournions à pied à la maison, il continua à développer ses idées sur ce que pourrait être la culture qu'il imaginait, heureux de sentir que son sentiment était partagé par moi. Le lendemain, le 19 avril 1906, il assistait à la réunion de l'Association des professeurs des facultés des sciences, avec lesquels il s'entretenait très cordialement des buts que pouvait se proposer l'association. En sortant de cette réunion, à la traversée de la rue Dauphine, il ne put éviter un camion qui venait du Pont Neuf et tomba sous les roues. La contusion à la tête fut instantanément mortelle. Et ainsi fut détruite l'espérance que l'on pouvait fonder sur l'être merveilleux qui venait de disparaître. Dans le cabinet de travail où il ne devait plus revenir, les renoncules d'eau qu'il avait rapportées de la campagne étaient toutes fraîches encore.
Extrait du journal de Marie Curie lu par la comédienne Maria Casares en 1969. Renaud Huyn, ici, on entend très bien le bouleversement de Marie Curie après la mort de Pierre.
Alors, c'est un événement dramatique pour Marie Curie, évidemment, pour la science aussi.
C'est le grand professeur qui décède.
Oui, et le chauffeur de l'attelage a failli être lynché lorsqu'on s'est rendu compte que c'était Pierre Curie qui avait été victime de cet accident de circulation. C'est évidemment dramatique, et ce qui est encore plus dramatique, c'est ces textes, ces lettres que Marie Curie adresse à Pierre Curie après son décès, qui montrent qu'elle n'accepte pas cette situation qui est absolument inacceptable, comme le décès d'un proche.
Oui, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à aller lire ces textes qui sont... très très touchant, bouleversant même. Mais alors, après la mort de Pierre, la communauté scientifique adopte en quelque sorte Marie Curie qui vient de perdre son époux. Dans quel milieu et dans quels cercles sociaux évoluait le couple à ce moment-là? Et qui sont ces personnes qui entourent Marie désormais?
Alors, Pierre Curie venait d'obtenir une chaire de professeur de physique à la Sorbonne. Et il était proche d'un certain nombre de scientifiques, d'intellectuels. Je pense notamment à la famille de Jean Perrin. Jean Perrin et sa femme faisaient partie c'était les voisins des Curie. Il y avait aussi les familles Langevin et toutes ces familles de scientifiques. Et ce sont eux qui vont faire en sorte que la chaire de physique de Pierre Curie ne soit pas laissée vacante, ne soit pas offerte à une autre candidature. Et c'est comme ça que Marie Curie va poursuivre le cours de Pierre Curie à l'endroit même où il l'avait laissé et devenir comme ça, 2 ans plus tard, titulaire de son poste de professeur en Sorbonne.
Et en 1911, elle se présente à l'Académie des sciences. Elle n'y est pas élue. Pourquoi ce refus d'intégrer Marie Curie?
Alors là aussi, c'est poussé par ce petit cercle d'amis, de scientifiques, qu'elle va présenter sa candidature à l'Académie des sciences. L'enjeu étant de pouvoir publier. Son objectif était de pouvoir avoir la liberté de publier dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Mais elle est battue à 2 voix près par Édouard Branly. Et finalement, le débat est à la fois n'est pas tant sur la qualité scientifique des travaux de l'un ou de l'autre. Branly avait découvert le télégraphe, Marie Curie la radioactivité. Il faut se rappeler aussi du contexte politique et social de l'époque où il y avait d'un côté les Dreyfusards, de l'autre les anti-Dreyfusards. Et finalement, la France était scindée en deux. Donc ce n'était pas uniquement une question scientifique ni même de sexe. C'est vrai qu'il était sans doute trop tôt pour une femme pour entrer à l'Académie des sciences, et Marie Curie a été battue à 2 voix près. C'était un grand désespoir pour elle, si bien qu'elle n'a plus représenté sa candidature à l'Académie.
Néanmoins, 1911, c'est aussi l'année de son prix Nobel de chimie, le deuxième prix Nobel qu'elle reçoit. Ça, c'est une belle vengeance vis-à-vis de l'Académie des sciences.
C'est une belle vengeance vis-à-vis de l'Académie, bien sûr, et puis vis-à-vis de ceux qui auraient pu être jaloux de sa réussite, puisqu'elle a vécu une période assez difficile pendant ces années 1910-1911, où pendant cette période où elle présente sa candidature à l'Académie des sciences, il y a beaucoup de débats autour de la femme, de l'épouse du grand scientifique Pierre Curie, du défunt Pierre Curie.
Il y a aussi cette affaire avec Langevin.
Et puis voilà, en 1911 éclate cette affaire Langevin. La presse à scandale, la presse nationaliste dévoile des correspondances entre Marie Curie et Paul Langevin. Et ça se déroule en effet en 1911, en plein Conseil Solvay, au moment où des grands scientifiques de ce monde échangent aussi sur des choses très importantes pour les sciences. Donc c'est une période compliquée pour Marie Curie, qui en plus a eu des problèmes de santé, ce qui va la conduire à se faire hospitaliser et être dans un état assez, assez déplorable.
Vous avez évoqué le congrès de Solvay, c'est un grand, grand moment des sciences de l'époque. Celui de 1911, c'est le premier où apparaît Marie Curie, et il y a cette photo emblématique du congrès où on la voit entourée de tous les grands hommes de la physique de son temps, des grands hommes, je dis bien, c'est la seule femme de cette photo. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette photo qui est assez prenante, en fait, on la voit au milieu de tous ces hommes?
Alors en effet, on voit une assemblée d'hommes, tous en costume, la plupart debout, quelques-uns sont assis, et seuls Marie Curie, et Poincaré et Jean Perrin sont concentrés autour d'un papier, ils ne regardent pas l'objectif, et derrière Marie Curie, on voit Langevin, on voit Einstein, le jeune Einstein, et puis d'autres scientifiques illustres comme Ernest Rutherford ou encore Planck, Marcel Brillouin et Ernest Solvay. Donc c'était le premier congrès Solvay de 1911, et jusqu'en 1933, Marie Curie sera toujours seule dans cette communauté éminemment masculine.
On parle de communauté d'intellectuels, ça c'est une communauté internationale, hein. Il y avait vraiment une espèce d'internationale scientifique, c'est vraiment là que ça se crée, mais il y a aussi une communauté d'amis, on les a un petit peu évoqués tout à l'heure, et ça c'est la bande de l'Arc Ouest. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette bande de l'Arc Ouest, parce que il y a une vraie histoire entre toutes ces familles de scientifiques et la Bretagne qui se perpétue encore aujourd'hui.
En effet, la Bretagne et notamment cette pointe de l'Arc Ouest en face de l'île de Bréhat avait été choisie par l'historien Charles Seignobos pour y installer sa maison. Il était professeur en Sorbonne et avait invité petit à petit tous ses amis à venir lui rendre visite, si bien que Jean Perrin y a fait construire sa maison, Marie Curie également, et que tout ce petit monde se retrouvait dans ce petit village que certains appelaient Port-la-Science, parce que c'était ces universitaires, ces professeurs en Sorbonne qui venaient passer leurs vacances dans cette île de Bretagne. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est ce même groupe d'intellectuels qui vont défendre Marie Curie au moment des polémiques, et puis qui vont aussi créer, quelques années avant, cette coopérative d'enseignement où Paul Langevin enseignait les mathématiques, Marie Curie la physique, Perrin la chimie, pour les enfants de la famille. Donc Irène Curie, Francis Perrin, Jean Langevin ou encore Isabelle Chavanne ont pu profiter de ces leçons un petit peu particulières qui étaient animées par cette communauté d'intellectuels soucieuse de l'éducation des enfants et des travaux pratiques, d'ouvrir aussi les esprits à d'autres disciplines que ce qu'on pouvait enseigner à l'école publique.
Oui, et puis il faut bien comprendre que les professeurs de ce petit groupe d'enseignement à domicile, c'est quand même la pointe des intellectuels de l'époque, parce que Marie Curie en professeur de physique, Jean Perrin pour la chimie, Paul Langevin pour les mathématiques, c'est assez fabuleux d'avoir ce type de professeur.
La plupart sont des prix Nobel, et les leçons de Marie Curie ont été retrouvées, enfin les notes d'Isabelle Chavanne ont été retrouvées et publiées, ce qui fait qu'on peut aujourd'hui reproduire les leçons de Marie Curie, qui sont des leçons de sciences amusantes, de physique simple.
Pour les enfants.
Pour les enfants.
Est-ce que c'est commun à cette époque de s'occuper comme ça de ses enfants à domicile et de s'émanciper peut-être d'une certaine manière de l'éducation nationale? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent vraiment de ne pas scolariser leurs enfants avec les autres?
Alors les enfants étaient scolarisés dans l'enseignement public, mais ils avaient en plus un enseignement particulier qui les éveillait, par exemple, aux arts. Madame Chavannes emmenait les enfants visiter des musées, donc ça se passait une fois par semaine, et puis on avait comme ça la possibilité, finalement, d'avoir un complément de ce qui était offert sur les bancs de l'école publique. Et la pratique du sport, des activités de plein air, était aussi très importante. Et Marie Curie s'est battue pour que des gymnases qui étaient construits, par exemple, dans des écoles de garçons, puissent être construits également pour des écoles de jeunes filles.
On a évoqué la Bretagne, on a évoqué le domicile des Curie, mais il y a un autre lieu qui est vraiment important pour Marie Curie, c'est l'Institut du Radium. À l'initiative de l'Institut Pasteur et de l'Université de Paris, le projet voit le jour en 1909, mais il est terminé après la guerre de 14, et pour Marie Curie, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère, le début de Marie Curie, la directrice de l'Institut.
Alors c'est en effet le rêve de Pierre Curie qui devient réalité avec la création d'un laboratoire complètement dédié à la recherche fondamentale, à la recherche scientifique. Et Marie Curie va le diriger pendant 20 ans, de sa nomination en 1914 jusqu'à son décès en 1934. Et ça deviendra, ce sera un établissement de renommée internationale, à la fois pour la qualité de ses recherches scientifiques, mais aussi pour tout ce qui a été fait pour développer les traitements, notamment du cancer, à partir des rayonnements.
À la fin de sa vie, Marie Curie devient peu à peu une grande figure de la physique moderne. Elle parcourt le monde, elle devient une femme importante. Comment ça change son quotidien? Comment elle s'investit aussi de manière internationale?
Il me semble que c'est au moment de la Première Guerre mondiale que s'opère un tournant dans la carrière de Marie Curie, qui auparavant ne s'intéressait qu'à la recherche. Après la guerre, elle va se rendre compte d'une part que les découvertes scientifiques peuvent avoir un intérêt pratique pour sauver des vies, et puis s'engager aussi pour la paix. Les voyages qu'elle va mener un petit peu partout dans le monde, elle part aux États-Unis chercher du radium, mais plus tard au Brésil, en Tchécoslovaquie, en Pologne, dans de nombreux pays, elle voyage pour propager un message scientifique, parce qu'elle était complètement convaincue que la science pouvait apporter la paix entre les peuples. Et c'est un petit peu l'enjeu aussi, au-delà du développement de la recherche scientifique, du partage des connaissances, que Marie Curie vivait par rapport à ses voyages. Elle, qui n'aimait pas voyager, qui n'aimait pas les journalistes, faisait cet effort parce qu'elle avait conscience, comme d'autres intellectuels et scientifiques de son époque, que c'était un enjeu important pour le développement de la société et pour le développement de la recherche.
J'aimerais clôturer cet épisode en écoutant la seule archive sonore de Marie Curie dont nous disposons. Je parle sous votre contrôle, hein, Renaud Huyn. Elle date de 1931, c'est 3 ans avant la mort de Marie. C'est au moment de la réception de la médaille d'or de l'American College of Radiology.
Je vous exprime tous mes remerciements à la délégation. Du Collège américain de radiologie et de la Société américaine de radiologie pour le témoignage d'estime tellement apporté ici et auquel je suis extrêmement sensible.
Merci beaucoup, Renaud Huyn, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce tout premier épisode. Demain, nous aborderons la grande découverte de Marie Curie, celle de nouveaux éléments chimiques que sont le polonium et le radium. Et nous verrons comment elle participe comme ça de la création d'une toute nouvelle physique. C'était une émission réalisée par Vanessa Nadjar et à la technique aujourd'hui, Nicolas Bonnet.